Vous venez d'écouter Folcalier sur Radio Libertaire 89.4 et on continue dans quelques instants avec Tempête sur les planches. On va même y aller tout de suite. Voilà, vous savez que vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires sur Internet, fédération-anarchiste.org. Vous pouvez aller à la librairie du Monde Libertaire, au 145 de la rue Amelot, dans le 11e arrondissement, au métro Filet du Calvaire République, au Oberkampf. Et n'oubliez pas que toutes les radios associatives sont gravement mises en danger par la loi de finances 2026, etc. Radio Libertaire a besoin de tous les soutiens possibles et imaginables, voilà, financiers, moraux et autres. Mais surtout, un peu d'argent ou un peu de soutien. Déjà, commencez par aller à la librairie du Monde Libertaire. Vous trouvez aussi le Monde Libertaire. Et vous pouvez, bien sûr, trouver sur Internet un petit bon de soutien, envoyer un petit chèque pour soutenir Radio Libertaire et faire en sorte aider à ce qu'on puisse continuer à produire des émissions totalement libres et indépendantes et critique avec cette voix irremplaçable dans le paysage radiophonique. Voilà. Alors, la prochaine émission, Tempête sur les planches.
Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas l'oublier. Puis ça, par contre, on peut l'éteindre, t'as pas besoin.
À vos postes, de TSF, pourtant, que la dernière fois. Il me semble vous reconnaître. Quel auditoire sympathique et charmant.
Alors c'est Thomas Dambourg avec Tempête sur les planches, avec les soucis financiers. Oui, on va vous parler d'argent aujourd'hui avec Régis Hébette, qui vient nous donner les nouvelles du théâtre L'Échangeur à Bagnolet, et des spectacles aussi, parce qu'il y a des spectacles aussi qu'on peut y voir, qui sont fort intéressants, mais il y a aussi une sorte de thriller qui se joue autour du financement du théâtre, où les uns et les autres jouent une partie de poker et essayent de trouver les fonds nécessaires. Et évidemment, les radios associatives sont aussi mises en danger par les manipulations budgétaires actuelles du gouvernement ou du non-gouvernement qu'on a. Et là-dessus, avec toute l'ironie et les histoires qui peuvent se produire comme ça, par le hasard des choses, ou bien c'est pas le hasard du tout. Alors voilà, la semaine prochaine, à Publico, mercredi prochain à 19h, vous pouvez voir une sorte de conférence grotesque sous le titre de Grande Fête à la Finance. Grande Fête à la Finance. Et avec Valérie Barral, Marc Chenet et Thierry Paillard. Une conférence grotesque et farce monétaire. Spectacle, débat et réflexion à la librairie Publico au 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement. Voilà, mercredi prochain à 19h. Et ils auraient pu venir, mais je ne le savais pas, j'étais pas au courant. Ça, c'est... Quelque part, c'est dommage. Ça aurait bien fait un contrepoint grotesque avec les farces monétaires dont nous allons parler, mais c'est déjà assez farcesque ce qu'on peut voir. Entre autres, on a une lettre de Rachida Dati qui est fort délicieuse si elle n'était pas à ce point à vomir. Voilà, donc Radio Liberté à 89.4, c'est la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité, avec Thomas Dombourg. Et on va aujourd'hui vous parler de L'Échangeur à Bagnolet, mais aussi du festival Auteur en Acte à Bagneux. Faut pas confondre Bagneux et Bagnolet. Et par contre, le spectacle dont on va vous parler, c'est le Manoir des Colonies, qui est né à Bagnolet, au théâtre de Colombier à Bagnolet. Mais nous, on va parler de L'Échangeur d'abord, de Bagnolet. Voilà. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de confusion. Oui, c'est Tempête sur les planches, c'est Radio Liberté à 89.4 avec Thomas de Hambourg. Et là, c'était Ima Soumak. À l'époque, chaque trémolo rapportait une centaine de dollars à Ima Soumak. Que je ne sais pas combien. Alors, bienvenue Régis Hébette. Toi, tu diriges le théâtre L'Échangeur à Bagnolet et la compagnie publique Chérie. Et toi, tu cours un peu partout encore hein, à trouver l'argent pour pouvoir éviter la fermeture de L'Échangeur. C'est un théâtre, bon, précieux. Parce que évidemment beaucoup de compagnies sont passées par là et peuvent être en résidence à l'échangeur. C'est un théâtre qui soutient des écritures contemporaines, modernes, expérimentales. On va parler de ça. Il y a deux exemples très intéressants à venir aussi au théâtre. On va parler un peu des spectacles qu'on peut y voir. Et tu peux nous dire un peu comment a évolué la situation depuis que tu es venu la dernière fois. Il y a des craintes, il y a un peu d'espoir, mais il y a aussi beaucoup de craintes.
Oui, merci de ton invitation déjà, Thomas. Alors, comment évolue la situation ? Bien, en fait, on s'est mobilisé consécutivement aux coupes budgétaires très importantes qu'on a eues du ministère de la Culture, puisqu'on nous a retiré 80 000 euros, ce qui, pour nous, est une très grosse somme et qui équivaut à une impossibilité de pouvoir continuer à faire vivre ce théâtre. Donc on s'est mobilisé, on a mobilisé d'abord le public, les équipes artistiques, on a sollicité la presse, on a sollicité aussi les élus qui ont répondu à notre appel, et on s'est organisé pour essayer de créer du débat autour de cette situation, d'attirer l'attention, et puis si possible de retrouver les financements qu'on nous avait enlevés. Donc ça fait déjà maintenant 8 mois puisqu'on a commencé en juin dernier, et on a quand même obtenu quelques petites victoires. On n'a pas obtenu la grande victoire, c'est-à-dire la restitution des moyens qui nous étaient précédemment alloués, mais on a, je dirais, remonté une partie de la pente, puisque sur les au total 95 000 qu'on nous avait retirés au mois de juin dernier, on a récupéré quand même 55 000 euros. Grâce à cette mobilisation, je trouve assez exemplaire, parce qu'elle rassemble, comme je l'ai dit, des équipes artistiques, mais aussi beaucoup de public qui a pris très à cœur cette situation. Et l'idée que les politiques culturelles de l'art et de la culture ne sont pas seulement l'affaire des élus et des professionnels, mais aussi bien sûr l'affaire du public, a été prise très au sérieux et très concrètement par ce public. On a notamment constitué un collectif informel des Amis de l'Échangeur, qui doit en être aujourd'hui, je sais plus, 1300 ou 1400 amis. Voilà, et ça pèse dans les échanges, parce que il est certain que nos interlocuteurs sont sensibles au fait que ça fasse un peu des vagues, la situation, que ça ne passe pas comme une lettre à la poste. Voilà, ceci dit, pour l'année qui vient, l'année 26, on sait pas, on est vraiment dans l'incertitude, on sait pas exactement ce qu'on va avoir comme financement, notamment du côté du ministère de la Culture, qui était en attente un peu d'éclaircissement pour pouvoir nous donner un cadre budgétaire. Je dirais que la situation pour nous, elle est très tendue, puisqu'en fait on est incapable à ce jour d'initier une nouvelle année à l'équilibre budgétairement parlant. Et donc, on ne pourra pas durer longtemps dans cette incertitude. Donc la question aujourd'hui, elle est de savoir comment on continue à faire bouger les lignes. Et pour ça, il y a deux pistes. Une piste qui est de dialoguer avec nos interlocuteurs institutionnels. Et une autre piste qui est de continuer à se mobiliser pour montrer qu'il y a du monde derrière nous et que beaucoup de gens ne sont pas du tout décidés à accepter la fermeture de ce lieu.
Oui, mais on se demande vraiment quel sens pourrait faire l'idée, le fait de laisser mourir un tel lieu pour quelques milliers d'euros.
Oui, c'est quelques milliers d'euros, effectivement. Donc il y a une espèce de déséquilibre entre l'enjeu de la fermeture d'un lieu qui accompagne quand même une centaine d'équipes chaque année, qui accueille beaucoup de public, et puis voilà, ce qui manque aujourd'hui, c'est en gros c'est 40 000 euros pour pouvoir continuer. 40 000 euros quand on pense qu'on a 4 partenaires institutionnels, l'État, la région, le département de la Seine-Saint-Denis et la ville de Bagnolet, on peut se dire ça fait un effort pas très important de la part de chacun pour pouvoir sauver le lieu et ce qui s'y passe.
Eh bien, et eux, ils vous disent quoi? Ils disent des choses comme « vous n'avez qu'à réduire le chauffage » ou...
Non, et alors, il faut bien comprendre qu'on parle aussi avec des gens qui n'ont qu'une conscience assez lointaine de ce que c'est que tenir un lieu comme celui-là. Il faut rappeler quand même que ce lieu est un lieu qui s'est développé autour de locaux privés, c'est-à-dire que nous sommes en location dans les espaces dans lesquels nous sommes, et ça pèse très lourdement évidemment dans notre économie. Donc on est avec des interlocuteurs qui sont un peu face à un objet inhabituel pour eux. Ce n'est pas le fonctionnement ni d'un lieu institutionnel où par exemple des locaux seraient mis à disposition d'une équipe avec un budget pour pouvoir faire tourner la maison. C'est un fonctionnement autrement plus complexe avec bien sûr des obligations lourdes pour nous en termes de chauffage, de loyer, d'entretien des locaux, etc., etc. Donc là on est face à des gens qui ont un peu du mal ou qui ne veulent pas considérer la spécificité de ce lieu et donc qui essayent de nous appliquer des règles qui sont celles qu'ils connaissent. Voilà. Après, officiellement, tout le monde nous dit mais on ne veut pas la fermeture de l'échangeur, qui est un lieu important, tout le monde le reconnaît, et tout le monde dit que c'est un lieu nécessaire en Île-de-France et au-delà. Mais pour l'instant... ça ne nous sort pas de la situation actuelle.
Oui, tout le monde dit on ne voudrait pas que ça ferme, mais allez voir, trouver l'argent chez les autres, c'est ça?
C'est exactement ça, oui, c'est exactement ça. Alors on a eu quand même, on a le soutien d'une ville qui, elle, a pris ses responsabilités et a décidé, à l'unanimité du conseil municipal, c'est important de le dire, qui a voté une subvention exceptionnelle en fin d'année dernière, en novembre 25, de 20 000 euros, pour nous aider à passer ce cap. Aujourd'hui, la ville de Bagnolet, c'est le plus gros partenaire, mais on se retrouve avec un État qui a retiré beaucoup de moyens sur ce lieu, et puis une région et un département qui ont accompagné de moins en moins fortement ce lieu depuis maintenant une douzaine, voire une quinzaine d'années.
Et puis, la vocation d'un lieu comme l'échangeur, c'est de soutenir des compagnies qui, elles, n'ont pas beaucoup d'argent non plus. Et ce n'est pas, ce n'est pas de louer les espaces à des comités d'entreprise, par exemple.
Exactement, exactement. C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'on nous demande à la fois d'accompagner les équipes en programmation, de proposer des séries d'accueil longues, au moins 6, 8, 10, 12 dates, de faire un travail avec des compagnies dites émergentes, terme que je ne trouve pas très satisfaisant, mais bon. On nous demande de faire de les accompagner en résidence, de mettre des locaux à disposition, et on nous dit dans le même temps, mais nous, on n'est pas là pour payer votre loyer. Voilà, c'est tout le paradoxe. Donc l'année dernière, bah, pour pallier les baisses de financement, il nous a effectivement fallu louer 200 jours les espaces dans l'année, pour pouvoir essayer de limiter la casse et de garder un peu de possibilité de poursuivre le projet.
Oui.
Mais c'est clair, on l'a dit très clairement, on ne refera pas ça cette année. C'est pas du tout la vocation de ce lieu depuis 30 ans, et on n'a pas l'intention d'accepter les conditions qui nous sont faites. Donc à un moment, on a posé la fermeture comme échéance tout à fait possible, en disant ben nous on ne va pas passer notre temps à louer les locaux pour essayer de pallier au retrait des financements des collectivités et surtout de l'État.
C'est comme un vote de confiance.
Pardon ?
C'est comme un vote de confiance.
C'est ça, oui.
Donnez ce qu'il nous faut. Bon, ou c'est pas la peine, mais bon, toutes ces discussions peuvent nous paraître un peu techniques, mais en même temps, on y voit à la fois de quelle manière peuvent exister des lieux de culture. Et puis, tu inscris ça aussi dans une perspective plus large. Alors, déjà, la culture, c'est un service public. Et bien sûr, tous les services publics sont depuis longtemps en train d'être un peu démontés, que ce soit les hôpitaux ou la poste ou je sais pas la SNCF, etc., etc. Donc la culture ne fait pas exception là-dedans et doit se débrouiller en quelque sorte. Et puis l'échangeur n'est pas du tout le seul lieu qui est comme ça mis en cause. Comme Radio Libertaire n'est pas la seule radio, mais ce sont des centaines de radios indépendantes et associatives qui sont menacées dans leur existence. Et comme ça, l'échangeur est aussi un de nombreux lieux en Île-de-France, dans tout le pays, qui risque de fermer. Et ça a déjà commencé.
Bien sûr.
L'échangeur, en vérité, ne serait qu'un lieu de plus qui doit disparaître.
Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi, bien sûr, des choix politiques qui sont faits derrière cet argumentaire des baisses de financement. C'est un certain type de lieu qui est visé, évidemment. Et notamment ce qu'on appelle des lieux intermédiaires, c'est-à-dire ce sont des lieux qui ne sont pas labellisés, qui n'ont pas forcément été voulus par la puissance publique, mais qui ont gagné au fil des ans leur droit à l'existence à partir de l'effectivité de ce qu'ils produisaient et de ce qu'ils proposaient là où ils œuvraient. Donc c'est effectivement ces lieux qui sont souvent des lieux de compagnie ou des lieux menés par des structures associatives qui sont aujourd'hui la variable d'ajustement. Il y a une autre variable d'ajustement très importante, ce sont les équipes artistiques. C'est-à-dire que aujourd'hui, eh bien, ce sont elles qui payent le prix fort, en fait, des réductions budgétaires, parce que, étant donné qu'il y a ou des diminutions ou des stagnations importantes des financements au lieu public, eh bien, au bout d'un moment, pour pouvoir continuer à faire tenir des maisons un peu emblématiques, labellisées d'importance, les maisons de l'institution, eh bien, il faut pouvoir les refinancer et avec des budgets ou sans augmentation ou en diminution, eh ben, ça devient la quadrature du cercle. Donc, il faut prendre l'argent ailleurs et notamment sur un certain nombre de lieux qui ne sont pas les lieux les plus institutionnels.
Alors, nous sommes en train de parler de cette situation-là, mais nous allons aussi parler de spectacle dans quelques temps. Mais avant ça, voilà, il y a un texte qui a été écrit par les compagnies qui ont travaillé à l'échangeur. Je voudrais en citer une partie. Ils ont écrit un texte qui dit « Rare, le théâtre, l'échangeur l'est aussi, par son attention aux autrices et auteurs d'aujourd'hui et par l'accueil en ses murs d'un vrai travail d'accompagnement des écritures. Il est également par la diversité de ce qu'on y fait, de la pratique amateur à la recherche en studio, de la diffusion à la résidence de création. Il est un lieu de fabrique et de programmation, une véritable ruche où les artistes travaillent toute l'année dans tous les sens de ce que nos métiers peuvent demander et où une diversité exceptionnelle de thèmes et d'esthétiques sont à l'œuvre à partir de toutes les techniques modernes ou ancestrales qu'offre aujourd'hui la scène contemporaine. Où sont les lieux en Île-de-France qui peuvent encore aujourd'hui héberger sur le long terme autant de compagnies en recherche de formes neuves? Des compagnies associant dans une rigoureuse exigence professionnelle et amateur, où des diffusions longues de spectacles, émergents ou non, sont accueillies dans deux salles différentes et permettent de rencontrer la presse, les professionnels et un public de proximité. Le tout à une station de métro de Paris. Les conséquences d'une fermeture de l'échangeur seraient mortifères pour le tissu créatif de notre région. Elles attendraient des centaines d'artistes du théâtre, de la musique et de la danse en les isolant encore davantage et en rendant encore plus ardu leur accès à un tel outil de travail. Alors, on peut toujours se demander, mais à quoi servent les artistes dans tout ça, n'est-ce pas? Mais alors, je viens de rentrer un peu plus dans les histoires qui se déroulent en Ukraine, par exemple. Et il y a un institut culturel de l'Ukraine qui s'est créé, qui siège à la Gaîté Lyrique. Et les artistes ukrainiens sont reconnus en Ukraine comme des gens extrêmement importants. dans la défense de leur identité ukrainienne et aussi, bien sûr, pour donner une certaine force morale de résister à l'invasion russe. Et quand on est dans une situation un peu extrême comme ça, là se révèle du coup l'énorme importance des artistes. On l'oublie un petit peu des fois ici, mais on s'en rend compte, ici par exemple, on se rend compte de la valeur des choses quand elles disparaissent, surtout. Et donc, il y a un nouveau rendez-vous bientôt dans cette lutte pour éviter la fermeture de l'échangeur.
Oui, c'est jeudi prochain, jeudi 29 à 18h30. Ça va être l'acte 8 de cette mobilisation. On réunit en fait le public, les artistes, les élus, toutes celles et tous ceux qui sont intéressés par cette situation régulièrement, en gros entre à peu près toutes les 6 semaines. Pour à la fois exposer les évolutions quand il y en a de la situation, et puis aussi essayer de réfléchir collectivement à comment est-ce qu'on peut y répondre. Donc là, on met les choses en débat. Ça ne veut pas dire que la salle est souveraine et décide du devenir du lieu, mais ça veut dire que c'est vraiment un endroit de réflexion partagée et ça nourrit énormément, nous, notre propre réflexion pour pouvoir dire, OK, on fait telle chose, on fait telle autre. Voilà, par exemple, une des idées qui est née de ces assemblées publiques, il y a quelqu'un qui a dit, peut-être un peu naïvement, apparemment, mais pourquoi vous ne faites pas un spectacle là-dessus pour expliquer la situation de l'échangeur, ce serait quand même une chose intéressante. Donc là, beaucoup d'artistes ont répondu en disant « Mais attention, un spectacle, c'est beaucoup de temps, c'est des répétitions, donc ça veut dire de l'argent. C'est justement que on est actuellement dans une grande difficulté de produire des spectacles. Donc on rajoutait de la difficulté à la difficulté, c'est compliqué. » Et puis il y a un auteur, metteur en scène qu'on aime beaucoup, qu'on a déjà accueilli deux fois à l'échangeur, qui s'appelle Jérémy Fabre, et qui lui a décidé de relever le gant, si je puis dire, et a écrit une pièce qu'il a appelée une pièce de circonstance, avec un sous-titre, quelques considérations sur la fin du monde, l'absence d'amour et la fermeture des théâtres. Voilà. Et c'est une chose à la fois très drôle, une espèce de thriller, et en même temps une chose, je trouve, très fine sur la lecture de la situation, et notamment ça fait intervenir une ministre de la Culture, qu'on pourra probablement reconnaître, mais dans des scènes qui sont vraiment extrêmement cocasses, ce qui n'empêche pas qu'elle soit, je crois, très, très fine politiquement dans la lecture de ce qui est en train de nous arriver. Voilà, donc ça c'est une idée qui est née comme ça dans ces assemblées publiques, de dire mais faites ça, et puis voilà, on le fait, et on va le faire très à l'arrache, hein, puisque ça va être une espèce de lecture mise en espace qui se fait avec un certain nombre de comédiens qu'on dit ok, moi je suis disponible, voilà, et puis en une semaine on va préparer ce moment qui aura lieu vendredi et samedi prochain, c'est-à-dire les 30 et 31, si je ne me trompe pas. Je me suis pas trompé dans les dates. Hein. Voilà, on va le faire à deux reprises, et je pense que ça va être un moment assez joyeux où la lutte prend d'une certaine façon une autre forme. Voilà, il y en aura d'autres, puisqu'on a été, il y a un premier danseur de l'Opéra de Paris, Jérémy Louquer, qui nous a proposé de venir présenter des œuvres qui sont habituellement présentées à l'Opéra de Paris avec un certain nombre de ses collègues pour soutenir l'échangeur, c'est-à-dire que du coup on essaye d'inventer comme ça des formes de lutte un peu, des façons d'attirer l'attention aussi, un peu qui soient pas seulement les assemblées publiques, même si pour nous les assemblées publiques sont très importantes, et pour le public aussi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait se dire oui, ça doit bassiner tout le monde, etc. Ben nous, c'est pas ce qu'on voit. On voit surtout des gens qui sont impliqués et que ça intéresse de se confronter très concrètement à une situation sur laquelle ils ont quand même, nous avons quand même les moyens d'agir. Nous avons les moyens de peser. Ce qui ne veut pas dire que on est capable de faire changer les choses du tout au tout. En tout cas, on est capable de les influencer et de faire bouger les lignes, comme je disais tout à l'heure. On avait, à chaque fois, on donne des titres à nos assemblées. La première assemblée qu'on avait faite à la rentrée en septembre, on l'avait intitulée « Des victoires sont possibles ». Et finalement, après quelques mois, ben, on se dit « On s'est pas trompé ». On n'a pas dit « la victoire, la grande victoire est possible ». On a dit « des victoires sont possibles ». On peut faire bouger les choses. Et je crois que c'est ce qu'on réussit modestement à faire à notre endroit. Voilà. Avec l'idée, et c'est notamment une idée qu'on veut mettre en débat jeudi prochain, le 29, pour cette assemblée publique, l'idée que pourquoi ce qui est possible à l'échelle d'un lieu ne le serait pas plus largement pour l'ensemble des compagnies ou pour d'autres lieux. Est-ce qu'à un moment, si on se met à plusieurs et qu'on crée du débat public, de l'écrit, de l'interpellation à la presse, qu'on met des élus dans la bataille, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire bouger les choses? En tout cas, le pari qu'on fait, c'est que ça n'est pas possible de rester inactif dans la situation qui nous est faite, et sans augurer même de nos chances de victoire, il y a comme une espèce d'obligation pour nous-mêmes, peut-être une quasi-question de dignité, à ne pas accepter la situation qui nous est faite.
Alors, je voulais mettre un peu de musique, mais on va continuer. Juste rappeler que nous sommes dans Tempête sur les planches, sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération anarchiste sur 89.4 de la bande FM. Voilà, et oui, alors, on parle de l'échangeur à Bagnolet, le lieu de théâtre, de production, de résidence, etc., créé par la compagnie publique Chérie. Est géré par la compagnie Public Chéri et dirigé par Régis Hébet qui est ici. Et voilà, il y a des surprises comme ça, hein, des victoires sont possibles, des grands jetés aussi.
Des
grands jetés.
Oui, c'est ça. Oui,
des fouettés. Si un danseur de l'opéra, même un danseur de l'opéra connaît l'échangeur.
Ah, mais c'est plus que ça, c'est que je crois qu'ils ne conçoivent pas qu'il puisse exister des lieux de grande visibilité institutionnelle sans qu'il n'y ait tout autour d'autres types de lieux et des lieux où à un moment s'expérimentent des choses ou d'autres modes d'organisation entre les équipes sont à l'œuvre. Je crois que c'est ça qui les préoccupe. Ils n'imaginent pas pouvoir développer leur travail au sein de l'Opéra de Paris sans que tout seul au milieu de nulle part, si je puis dire.
Alors, on va en toucher un mot à cette ministre de la Culture, là. Relis-nous, le danseur s'appelle Jérémy?
Jérémy Louquer.
Il est très bon. C'est un très bon danseur. Rachida Dati, probablement, ne le connaît pas.
Ça,
mais, on va lire sa lettre, là. Elle a écrit à une députée, parce que vous avez quand même aussi le soutien d'une députée qui s'appelle Sarah Legrain.
Le soutien de plusieurs députés, je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on ait impliqué les élus, ça a beaucoup compté. Pour peser sur la situation. On a d'abord, notre maire a pris la chose assez au sérieux et depuis déjà un certain nombre de mois. Et puis ensuite, on a eu le député de la circonscription, Alexis Corbière, qui lui a interpellé directement Dati par écrit. Et puis une autre députée de Paris, Sarah Legrain, députée LFI, qui a également interpellé la ministre. À la suite de quoi, on a eu cette réponse de Rachida Dati.
Ça a dû lui coûter d'écrire à une députée LFI. Et puis, oui, si elle apparaît un peu dans cette pièce de circonstance que vous présentez à l'échangeur, là, vendredi et samedi prochain, ça va être assez rigolo. Déjà, si je prends cette lettre qu'elle a adressée à cette députée, lettre du 27 août 2025, avec la référence à rappeler qui est le MC/2025/A/6170/ MGI, voilà, qui dit. Alors, pourquoi, en fait, pourquoi je. Oui, parce que moi, je l'ai vu, hein, je suis témoin en tant que journaliste, je suis témoin de l'attitude de Rachid Dadati. Je suis allé au ministère. Il y avait une présentation d'un grand événement festival de danse et elle a fait apparition pendant 5 minutes. Elle a essayé de parler de la danse en faisant des blagues à gauche et à droite, des blagues complètement stupides. Et on voyait très bien qu'elle ne s'intéressait absolument pas à la danse, qu'elle avait regardé 2-3 choses sur la danse sur Wikipédia, et en disant que ça, la danse, ça fait du bien au corps et des choses comme ça. Et pendant tout ça, elle rigolait comme une adolescente immature. Quoi. Donc, voilà, quand elle écrit une lettre, alors, ça va donner à peu près ça. Madame la députée, vous m'avez fait part de vos préoccupations quant au risque de fermeture du théâtre de l'Échangeur situé à Bagnolet, et j'ai pris connaissance de votre correspondance avec beaucoup d'attention, je vous en remercie aussi. Je tiens à vous apporter les éléments de précision suivants. J'ai demandé à mes services d'instruire ce dossier avec la plus grande attention. Au regard des informations qui m'ont été données, il s'avère que mes services tentent depuis plusieurs mois d'établir un dialogue apaisé avec l'association en charge de ce lieu. Ainsi, lors de la réunion de conciliation du 2 juin 2025 organisée par M. Tony Di Martino, maire de Bagnolet, les représentants de l'État ont rappelé l'engagement d'un soutien financier à hauteur de 100 000 euros pour l'année 2025 visant à construire de nouvelles perspectives pour 2026 avec l'ensemble des partenaires publics. Et des nouvelles perspectives, c'est quoi? C'est une nouvelle perspective. Oui, la fermeture, c'est une nouvelle perspective parce que ça serait la première fois que tu fermes l'échangeur.
Ah oui.
Ah oui, merci. Merci Tati Rachida, merci pour ces nouvelles perspectives. Alors, elle continue. Cette réunion avait d'ailleurs abouti à un protocole prévoyant la tenue d'un comité technique pour définir les attentes de chaque partie ainsi que l'organisation de comités de suivi en fin d'année en présence de l'ensemble des partenaires publics. Malheureusement, les représentants de l'association n'ont pas souhaité s'engager dans ce dialogue, exprimant par voie de presse leurs inquiétudes et mettant en cause les partenaires publics. Ah! Je vous tiens à vous rappeler la forte considération du ministère pour le théâtre de l'échange qui joue un rôle clé, l'accompagnement des compagnies en Île-de-France, oui, et on le savait, je ne sais pas, elle a appris quand même par vous, mais oui, c'est quand même assez confondant d'entendre la ministre de la Culture vous dire, eh ben vous avez le culot de vous plaindre de votre situation, alors... allez-vous balader, quoi.
Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que le fait qu'on ait alerté le public, alerté la presse, alerté les compagnies sur la fermeture probable, en tout cas...
Vous osez vous plaindre, alors voilà. On ne peut pas parler avec vous, quoi.
C'est bon. Ça. Ça vaut rupture de dialogue, alors que nous, pendant le même temps, on les sollicitait par écrit en leur demandant de mettre en place la rencontre qui avait été prévu entre les partenaires institutionnels et ils ont choisi de ne pas nous répondre. Donc effectivement, ça interroge. C'est-à-dire que si à un moment on rend la chose publique, on est d'un seul coup persona non grata. Il n'y a plus de dialogue possible. Et ça, ça dit aussi quelque chose de la situation un peu complexe dans laquelle aujourd'hui nous sommes. C'est-à-dire qu'il nous faut à la fois ne pas donner d'arguments à nos interlocuteurs pour quitter la table des négociations, parce que c'est de ça dont il est question, et en même temps, ne pas désarmer, c'est-à-dire dire, bah, écoutez, excusez-nous, mais la mobilisation, elle est toujours présente, les gens attendent, ils s'impatientent, on a besoin de réponses concrètes, voilà. Donc il nous faut jouer sur ces deux tableaux, et c'est pour ça qu'on met aussi la réflexion sur la stratégie à suivre en débat avec le public.
Voilà, une partie de poker à jouer avec les institutions publiques, voilà. Mais bon, on va revenir un peu à Ima Soumak pour un petit moment de détente et un peu de trémolo sur Radio Libertaire 89.4 dans Tempête sur les planches avec Thomas de Hambourg.
Thank you.
Il y a eu une réponse des élus, je vous croyais de la tif. Bon, je laisse ici, si tu veux.
Es el carnaval, vamos a bailar. Es el carnaval, vamos a bailar. Es el carnaval, vamos a bailar. Es el carnaval, todos a gozar.
Aprieta.
Alors, on continue Tempête sur les planches, c'est Radio Liberté à 89.4. Et Régis Hébette, voilà. Donc, c'était. Oui, alors, Ima Soumak, c'est un peu là-dessus, j'imagine. Le visage de Rachida Dati qui nous parle de la culture, qui nous parle de l'échangeur. Et vous avez eu une réponse alors?
Oui, on a eu cette réponse de la ministre et les élus ont à leur tour répondu à la ministre. Et dans un courrier qui était co-signé à la fois par le maire de Bagnolet, le député de la circonscription, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis et le président de la communauté d'Aglo Est Ensemble, donc respectivement Tony Di Martino, Alexis Corbière, Stéphane Troussel et Patrice Bessac. Et dans ce courrier, ils reviennent sur la situation, mais il y a notamment ce petit paragraphe à la fin qui dit le souhait de l'association de partager ses inquiétudes avec son public ne saurait constituer une légitime justification à une rupture du dialogue avec vos services et au conditionnement du versement de la subvention de l'État à ses activités pour l'année en cours. Bon, voilà. Mais puisque c'était aussi de ça dont il était question, ce courrier de la ministre menaçait à peine à demi-mot de ne pas nous verser la subvention 25 en raison du fait que nous avions mobilisé et attiré l'attention sur notre situation.
Voilà. Alors, dirigeons l'attention un peu sur les spectacles, parce que, bien sûr, le tout premier moyen de profiter de l'existence, de l'échanger, mais aussi de le soutenir, c'est bien sûr d'y aller et de voir les spectacles. Et notamment, moi, j'étais aussi très intéressé par un projet là qui vous présentez du 4 au 7 février, donc dans une semaine et demie, autour de Frida Kahlo, et qui illustre aussi ce que disaient les compagnies qui ont signé ce papier de soutien. Voilà, où sont les lieux en Île-de-France qui peuvent encore aujourd'hui héberger sur le long terme autant de compagnies, etc. Des compagnies associant dans une rigoureuse exigence professionnelle et amateur, etc. Mais il parlait aussi des nouvelles écritures, des écritures de théâtre, de musique et de danse qui peuvent se mélanger en grande liberté. Et ça, c'est exactement ce type de projets là autour de Frida Kahlo où il y a musique, théâtre et aussi un danseur, et c'est un peu queer sur les bords, paraît-il. Donc qu'est-ce que tu peux nous raconter? J'aurais bien aimé les recevoir aussi ici, mais tu peux nous dire un peu de quoi il s'agit. C'est donc l'ensemble Alma Viva et la compagnie Pétrole dans Frida Kahlo, un portrait musical.
Oui, c'est un ensemble, c'est une co-construction, je dirais, autour de cette création, autour de ce portrait musical, l'ensemble Alma Viva, mais aussi la compagnie Pétrole, qui est une compagnie qui est implantée au sein du Théâtre L'Échangeur, une compagnie qui est dirigée par Clara Chabalier, puisqu'il y a 11 équipes qui ont des locaux permanents dans les locaux de l'échangeur. Et la compagnie Pétrole est une de ces équipes. Après, il y a aussi un ensemble qui est juste à côté, qui s'appelle l'ensemble Instant Donné, et un des musiciens est notamment partie prenante de cette création. Et ça, c'est une chose qui nous intéresse beaucoup, c'est-à-dire que ça circule sur l'échangeur, c'est une espèce de d'écosystème avec beaucoup d'équipes qui travaillent simultanément, et il y a aussi des croisements, des rencontres dont nous ne sommes pas, moi qui dirige la structure, à l'origine. C'est-à-dire qu'à un moment, il se passe des choses sur ce lieu, voilà, qui sont pas directement initiées par la direction de ce lieu. Et ça, je trouve que c'est très important, parce que ça donne une capacité d'autonomie. Ça fait des croisements, des rencontres. Alors là, c'est entre des équipes artistiques, mais ça peut aussi être entre des équipes artistiques et puis des associations du territoire. On a différents exemples comme ça. Mais pour revenir à cette forme, bah écoutez, oui, c'est une forme autour d'une figure qui est à la fois tout à fait identifiée, célébrée, qui est la figure de Frida Kahlo, et qui porte effectivement en elle beaucoup de spécificités qu'on peut retrouver aujourd'hui. Effectivement, cette ambiguïté sexuelle, cette liberté de création, cette puissance sans cesse réinventée de se réparer, de se réinventer elle-même à travers ses œuvres. Voilà, c'est autour de ça que tourne cette création, où effectivement il y a un danseur, il y a aussi un beau travail plastique qui est mené, évidemment un travail avec une chanteuse lyrique et un travail de composition sous la direction de Ezequiel Spouches. Voilà, c'est tout à fait à l'exemple de je dirais des productions qu'on accueille à l'échangeur, c'est où les disciplines peuvent se croiser et où quelque chose d'un peu audacieux et d'incertain est à l'œuvre. Voilà, donc
oui, en général, alors on voit ça du 4 au 7 février avec des horaires assez particuliers. 14h30 mercredi et vendredi, 10h30 et 14h30 jeudi, 18h samedi. Parce que le soir il se passe autre chose dans la salle.
Non, mais là parce que c'est un spectacle aussi qui est destiné au jeune public. C'est un spectacle tout public, hein. C'est pas seulement réservé au jeune public, mais on a vraiment mis l'accent là-dessus et fait un travail avec notamment les collèges de la ville. C'est pour ça que ça se passe en journée, excepté le samedi où là, ça se passe dans l'après-midi, en fin d'après-midi.
Alors, on va écouter encore un petit moment Ima Soumak. Je ne m'étais pas rendu compte avant, mais je vois maintenant que elle représente tout à fait le blablabla de Rachida Dati.
Thank you.
Je suis tombé sur une lamentation, Dima Soumak, mais le théâtre n'est pas encore mort, non, pas encore. Mais alors, on va réannoncer l'acte 8 de votre campagne, mais alors toute tragédie se termine après l'acte 5. Vous en êtes à l'acte 8, c'est à la fois, c'est peut-être un symbole aussi de l'acharnement et de la possibilité de continuer même après la fin prévue par certains. Voilà. Mais je voulais, alors, Régis Hébet, ici dans Tempête sur les planches, sur Radio Libertaire, revenir aussi à cette pièce de circonstance. Par Jérémy Fabre, nous en avons parlé un petit peu. Et puis ça m'intéressait aussi parce que il pose un peu une situation. Ça s'appelle pièce de circonstance. Quelques considérations sur la fin du monde, l'absence d'amour et la fermeture des théâtres. Et puis il y a une petite description, une petite note d'intention qui dit « Alors voilà des comédiennes et comédiens qui s'installent dans une église en ruine, sur fond de révolution anarchiste, dans une France scindée en deux, une scène nationale est occupée par des agents d'entretien et des compagnies régionales qui réclament le retour de leurs subventions. Une ministre de la Culture qui fait écrire par sa chargée de com' un roman sur la grâce et la gratuité de l'art. » Voilà, ça doit être assez délicieux.
Oui, Jérémy, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est toujours truculent ce qu'il écrit, et il y a toujours des récits enchâssés les uns dans les autres. Là, par exemple, c'est une romancière qui écrit cette histoire de cette compagnie de théâtre réfugiée dans une église en ruine. Mais on traverse les époques. Il y a un tout premier épisode qui doit se situer en 2027, avec une tentative d'assassinat d'une directrice artistique des affaires culturelles par un responsable de compagnie. C'est évidemment une blague, mais voilà. La deuxième séquence, la deuxième strate du récit se passe 20 ans plus tard dans cette église en ruine. Et puis, il y a encore une troisième strate avec cette ministre qui vient et qui décide de redéployer un projet autour de la grâce et de la gratuité avec des acteurs qui refusent tout financement public. Et donc, tout ça est enchâssé. C'est toujours très... Il y a une dimension assez très burlesque, assez BD. Dans ce qu'il fait. On avait accueilli déjà des précédents spectacles. Et en même temps, c'est toujours une lecture assez fine de ce qui est en train de nous arriver, parce que on comprend dans ce récit que c'est bien la question du réel d'une forme de réécriture du réel, voilà, qui on se situe en quelque sorte dans un métaverse où Madame la ministre là essaye de réécrire à sa façon la réalité, puisque elle part du principe que d'une certaine façon c'est elle qui la détermine.
Voilà. Alors Régis, tu dois en savoir quelque chose théoriquement, puisque d'après le texte, l'annonce, tu fais partie des interprètes.
Oui, tout à fait, oui. Il m'a écrit un rôle, je vais me retrouver à faire le rôle d'un directeur de scène nationale. Directeur de scène nationale qui est pris dans ses contradictions et qui voit notamment son théâtre occupé, comme tu l'as dit tout à l'heure, à la fois par le personnel technique et puis par les compagnies régionales. Voilà, et lui va se retrouver un peu coincé là au milieu. Il va même être pris en otage. Il va devoir s'échapper. Et son destin est lié à une décision de la ministre de la Culture, mais qu'on ne parvient pas à trouver puisqu'elle s'est mise à l'écart pour écrire ce roman. On va voir ça. Ouais, je vais faire ça avec grand plaisir. Et surtout, j'aime beaucoup l'idée parce que là, il y a des tas de gens qui vont être mêlés. Il y a aussi des amateurs qui vont se retrouver pris à participer à cette distribution. Ça se fait vraiment avec les moyens du bord. Et comme le dit Jérémy à un moment, les moyens du bord qui sont de mémoire, ce qu'il cite, c'est l'imagination, le sens de l'humour et de la propos, je ne sais plus. Enfin voilà. Donc ça va se construire très à l'arrache. Et ça peut faire aussi des beaux moments de partage. Peut-être des naufrages aussi, mais c'est toujours le risque, mais qu'on va prendre avec grand plaisir. Oui.
Moi, je vois très bien la ministre, tu dis, même dans la réalité, tu diras, mais si on vous ferme votre théâtre parce qu'on ne vous donne pas assez d'argent, etc., mais vous n'avez qu'à postuler pour une scène nationale.
Voilà. Oui, j'aurais pas beaucoup de chance.
Oui, mais ce genre de choses-là, écrit un peu à chaud, c'est un grand plaisir, c'est prendre des risques, mais positivement, quoi. Oui,
ouais, puis c'est d'essayer de faire un pas de côté, pour ne pas être que dans la gravité de la situation, et aussi de faire en sorte que les gens qui sont pris dans cette lutte vivent des choses ensemble, avec l'idée que la lutte peut être tout à fait joyeuse, en fait.
Et que mais aussi, là, c'est un peu s'amuser du théâtre lui-même, parce que moi, je vois très bien ça aller dans un sens de Heiner Müller, autant que tu parles de BD, et de faire un joyeux mélange comme ça.
Oui, tout à fait, oui.
Voilà. Et ça, la pièce de circonstance, ça va se faire vendredi 30 et samedi 31 à 20h. Et avant ça, il y a, on va le rappeler, l'acte 8.
Oui. L'acte 8 où, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va remettre en débat, on va déjà informer le public des dernières rencontres, puisqu'on a eu ce qu'ils ont appelé un temps politique. Au début novembre, on avait réussi à réunir les quatre partenaires institutionnels, État, région, ville et département, et notre président du théâtre, qui m'aide beaucoup, Jean-Joël Le Chaplin, il m'aide beaucoup parce que il me décharge d'une grosse partie du dialogue avec ses interlocuteurs. Et lui, il a proposé, il a dit, écoutez, là, on va vers la fermeture. Donc, si chacun des partenaires met 20 000 euros, comme l'a décidé de le faire la ville de Bagnolet, on va pouvoir sauver ce théâtre. La réponse des autres, ça a été de dire, écoutez, dont acte, on va prendre note de ça et on reviendra pour vous donner une réponse. Et donc le maire a demandé à ce qu'il y ait un temps politique, et ce temps politique, il a eu lieu le 16 janvier dernier, et en fait, rien n'a bougé depuis, dans cette période de 2 mois, quoi.
Bon, alors, on rappelle les rendez-vous. Heureux sont ceux qui vivent à Bagnolet, parce qu'ils sont tout proches, parce qu'il faut y aller tous les soirs. Il y a des raisons d'y aller tous les soirs. Donc,
voilà, c'est au métro. L'acte 8. On est juste au métro, donc c'est pas très compliqué pour les gens qui habitent Paris de venir jusqu'à nous.
Voilà, c'est tout près du métro Gallieni. On sort à droite, quoi, à droite, c'est une centaine de mètres, puis on traverse la rue. Et on est arrivé, c'est à 150 mètres du métro, là. Donc, l'acte 8 a lieu quel jour ?
Pardon ?
De l'acte 8.
Ah, c'est jeudi 29 et c'est à 18h30.
Voilà. Et donc, le lendemain, vendredi 30, la pièce de circonstance, aussi le 31. Exactement. Et puis, la semaine d'après, mercredi 4 février, du mercredi au samedi 7, souvent l'après-midi et samedi à 18h, c'est Frida Kahlo, un portrait musical. Voilà. Ouais, bon, allez, Régis, merci d'être venu. Et bon courage, bonne suite. À très bientôt. On reviendra là-dessus parce que c'est une affaire à suivre.
Merci, merci Thomas.
Et donc vous écoutez Tempête sur les planches sur Radio Libertaire, 89.4 La Voix sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération Anarchiste. Et dans un instant, on va prendre cette pièce-là qui est née il y a un an. Dans l'autre théâtre de Bagnolet, au Colombier, et qui va faire surface là, à Bagneux. Et entre-temps, je rappelle la grande fête à la finance qui aura lieu à la librairie Publico, au 145 rue Amelot, dans le 11e, qui est le siège de Radio Libertaire. Et ça sera mercredi à 19h. Donc bonne préparation pour aller ensuite écouter à l'échangeur. Comment évolue la situation et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors là, c'est grande fête à la finance avec Valérie Barral, Marc chez... Chenet, Marc Chenet et Thierry Paillard. Et donc, conférence grotesque et farce monétaire, spectacle, débat et réflexion à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e, mercredi 28 janvier à 19h. Et là-dessus, on va passer justement au manoir des colonies par l'autre compagnie implantée à Bagnolet, c'est l'Engageur Groupement. Une pièce qui s'appelle Le manoir des colonies, écriture et mise en scène de Gilles Saint-Pierry avec Mireille Herbstmeyer et Céline Maguery. On va tous les entendre avec Maxime Levesque aussi, collaboration artistique. Alors c'est une pièce qui parle des questions d'isolement social et de la condition des femmes domestiques enrôlées aux colonies. Et bon, c'est mis en lumière à travers la vie d'une mère et de sa fille qui vivent dans une vieille demeure, une maison qui est remplie d'objets de la période coloniale. Donc ces deux femmes sont à la fois victimes et héritières de la colonisation. Et voilà, on aborde comme ça leur histoire familiale, la mémoire d'un épisode peu connu de l'histoire ouvrière de la Guadeloupe. Ce sont les émeutes qui ont eu lieu place de la Victoire à Pointe-à-Pitre en mai 1967. Voilà, donc pour proposer au public un regard sur la question de nos héritages familiaux et historiques. Et cette pièce va donc être jouée vendredi 6 février dans le cadre d'un festival qui a lieu au Théâtre Victor Hugo à Bagneux. Ce festival s'appelle Auteur en acte et il a été créé il y a longtemps par la compagnie Sourous, qui est la compagnie fondée par Marcos Malavia et Muriel Roland. Ce sont deux personnes qui sont très souvent venues à Radio Libertaire dans Tempête sur les planches, et je les salue. Ils défendent depuis longtemps ce festival, et ils auraient eu aussi des choses à nous dire côté finances, parce que je vois aussi que malheureusement le festival est aujourd'hui beaucoup plus petit qu'il n'était à l'époque. Ils nous accueillent là gratuitement en ouverture du festival jeudi 5 avec un spectacle qui s'appelle Paella, qui a quelque chose donc de latino un peu, parce que bon, Marcos Malavia, il vient aussi d'Amérique du Sud à l'origine, et puis le manoir des colonies et autres plaisirs voilà, dont on va vous parler après avoir écouté cet entretien que j'ai fait à l'époque, il y a un an, sur le plateau même au Colombier de Bagnolet.
De création du Colombier. Donc là, le projet, moi, j'avais envie de faire un objet théâtral sur les mensonges de la colonie, de toute cette période de la colonisation. Donc l'histoire, c'est deux femmes qui vivent dans une extrême pauvreté, dans un manoir rempli d'œuvres d'art, spoliées, visiblement.
Donc voilà, c'est Gilles Saint-Pierry.
De chercher comment elles pouvaient être le reflet à travers trois générations. Elles sont deux, mais il y a aussi des références à la grand-mère. En tout cas, toute une lignée de qui sont le reflet, c'est-à-dire un point de vue de la colonisation par la domesticité, par les personnes de la domesticité, de manière à comme ça inclure dans ce système de la colonisation des questions économiques, mais aussi des histoires d'emprise qui s'enclavent, c'est-à-dire les femmes de chambre là représentent ici la bourgeoisie à travers ce qu'elles ont vécu. Elles sont elles-mêmes esclaves de ce monde.
De tous ces fantasmes, oui. Oui. Mais c'est un peu presque comme chez Goldoni, où tu as une aristocratie déchue qui vit dans la pauvreté du présent et dans les fantasmes de leur grand nom et de leur gloire qui s'est évaporée. Mais en même temps, si j'ai bien compris, c'est quand même une sorte de famille d'ouvriers qui s'est enrichi avec la colonisation.
Bah, c'est toujours la question de la manipulation des masses. Comment les symboles de la richesse arrivent par des propagandes économiques, et des modèles, des injonctions d'État, patriotiques aussi, arrive à faire en sorte que tout le monde réagit par rapport à ces modèles. Donc en effet, c'est des personnes qui sont pauvres, mais qui sont vraiment dans cette propagande, c'est-à-dire des proies au nationalisme, objets de propagande, possédant des objets elles-mêmes de la colonisation, et dans un objet de leur propre représentation, puisqu'elles sont c'est des personnages qui ont arrêté le temps. Cet arrêt du temps ici, c'est une façon de préserver une vieille France, des valeurs, de stopper tout ce qui pourrait remettre en question ce mensonge qui tient la culpabilité de la colonie, puisque comme disait Césaire, l'avantage du colonisé sur le colonisateur, c'est que le colonisateur sait qu'il ment, mais il maintient ce mensonge. Ce mensonge, il est entretenu aussi à travers la filiation entre la mère et la fille. Donc il s'agissait vraiment d'un enfermement, d'un obscurantisme entre à la fois une mère et une fille qui s'appelle France et Victoire, et aussi un obscurantisme politique, qui on a beaucoup travaillé sur cette notion d'objet, en fait. À chaque fois, en partant des objets des colonies, les tissus, les œuvres d'art, et voir comment la colonisation, elle est possible à partir de la représentation. C'est quand on arrive à produire une représentation qu'on arrive à coloniser. Enfin, c'est peut-être le point de départ.
Mais c'est bizarre d'écrire un personnage comme ça, de le créer, de l'imaginer. Alors, il n'y a pas longtemps, là, il y a eu une manifestation des royalistes, apparemment à Paris. Et la mère de la pièce, elle irait bien. Elle irait manifester avec ces gens-là. Elle rêve de Napoléon, qui lui demande de rétablir l'esclavage. Elle délire, quoi.
C'est l'âge aussi. Oui. Le manoir, c'est un peu le manoir du populisme, du nationalisme. Aussi les symboles napoléoniens, la grandeur de la France. Et aussi une histoire qui va retenir de Napoléon un certain aspect. Et d'un point de vue de la colonisation, on a toutes les polices secrètes. On pourrait les relier à l'origine à Napoléon quand il a rétabli l'esclavage, voyant l'émancipation de Toussaint Louverture et d'intellectuels antillais qui ne correspondaient pas à ce que l'émancipation, à ce qu'ils avaient prévu de l'émancipation. Donc là aussi, c'est un objet qu'on demande souvent à l'ancien colonisé ou à la minorité ou aux prolétaires, c'est d'exister, mais seulement dans la représentation qui permet une certaine économie, une certaine soumission et un certain refoulement aussi de la parole, quoi.
Mais Céline est arrivée. Céline Marguerite, tu joues la fille. C'est un deux en scène, hein. Je sais pas si ça existe. On parle de seul en scène souvent. Et donc, tu es la fille face à la mère. Tu cherches la clé. une armoire avec un cadenas. Et dans cette armoire, il y a quoi déjà?
Ah bah, est-ce qu'il faut le dire? il y a tout son passé, toute sa famille, je pense toutes les choses qu'elle a voulu garder, toutes ses beautés qu'elle a voulu garder, et aussi tout ce qu'elle veut cacher, tous ses crimes auxquels elle se sent peut-être avoir participé malgré elle. Parce qu'elle a été en contact avec des gens, elle a servi des gens qui ont perpétué ces crimes. Donc il y a tout ça, mais il y a aussi toute cette, toutes ces dentelles blanches, tous ces objets des colonies, ces carafes, ces belles choses qu'on garde. Il y a les deux. Il y a autant la beauté que l'horreur, et les deux se confondent, je pense.
Et Mireille Herbstmeyer est avec nous aussi, qui joue la mère. Eh ben, quelle voix! Quelle voix! Oh Dieu! Oh là là! Voilà.
Bon. Vous savez, je vous ai cassé les oreilles, non?
Alors, cette mère qui vit, qui commence un peu à perdre les esprits, elle a des moments troubles. Et d'abord, j'ai pensé, bon, et peut-être dans cette maison-là, elle doit sortir. Il est question aussi d'un incendie à un moment. Mais ça sent plutôt le départ à la maison de retraite, quelque chose comme ça. C'est une époque qui se termine. C'est une grande, rétrospective. Tous les souvenirs qui reviennent. Mais bon, alors comment là, il y a des cadavres au grenier et on n'y touche pas, c'est ça?
Oui, oui. Et puis même, on espère pouvoir en rajouter des cadavres dans le grenier, parce que quand elle parle de séquestration, éventuellement d'un des huissiers qui pourrait passer la clôture, c'est bien de ça qu'il est question, quoi.
Gilles, maintenant,
la vérité.
Elle, dis-nous un peu où elles vivent. Et tu les as situées où?
En fait, il y a trois mondes. C'est une mise en abîme. Il y a déjà le théâtre. Voilà. Elles vivent au théâtre, puisque c'est des personnages. Et à travers leur façon de représenter, elles nous interrogent sur la représentation. Elles représentent des personnages qui vivent dans une maison, tout simplement, mais où il n'y a plus de chauffage, dont elles n'ont pas la maîtrise. C'est un symbole des contes de fées. C'est une injonction à la femme, à une certaine forme de féminité, mais surtout une place de la femme qui n'a aucune information sur la guerre. C'est-à-dire qu'ils toujours reçoivent leur mari, leur père, et notamment ceux qui ont perpétué des crimes, ou tout simplement les anciens combattants, et qui doivent gérer cette espèce de résonance de l'après-guerre. Le manoir, c'est aussi tout simplement la maison du nationalisme, dans laquelle on a des tentations d'entrer.
Mais alors, la fille, bien sûr, il y a des points de vue différents entre la mère et la fille. Mais il n'y a pas de vrai conflit, pas d'affrontement, il n'y a pas de violence, ça n'éclate pas. Il y a quand même une relation de douceur et d'amour entre les deux femmes.
Ben oui, parce que c'est un mouvement double, c'est-à-dire que la fille, on l'étranglerait bien un matin sur deux, mais en même temps, elle est indispensable, et puis en même temps, elle l'aime, il y a de l'amour, il n'est pas... Voilà, je pense que cette relation serait pas possible sans de l'amour. Voilà, donc ça crée une espèce de situation entre les deux femmes qui est amour-haine, quoi, voilà. En même temps, la fille, je pense, elle rejette la mère, bon, bah parce que, voilà, à cause de tout ce passif, je dis bien ce passif et pas ce passé, parce que, voilà. Et puis en même temps, ben, c'est sa mère. Alors, ben, on sait bien, on a des relations avec sa mère qui sont quand même un peu à la fois empoisonnées et en même temps qui peuvent se transformer. Je ne sais pas si ça se sent dans le spectacle, mais moi, je trouve que, voilà, vers la fin du spectacle, c'est presque comme si les relations s'inversaient, quoi. Que la fille, admet de devenir la mère de sa mère, en fait, un peu.
Après, je me suis demandé où est-ce qu'elle est née, la fille. Elle est née dans une colonie. Elle a vécu son enfance, je ne sais pas où.
Elle est née dans l'escalier de service.
En revenant. A priori, elle est venue en revenant des colonies. Mais ici, il y a quand même un conflit. On joue quand même un conflit au début qui est plus un conflit générationnel, tout simplement, entre deux visions. Une mère qui regrette aussi tout ce qu'elle a fait, un engagement, qui veut avoir un engagement par rapport au nationalisme ou quoi, mais qui en même temps continue à cacher des choses, qui parfois essaye de se justifier, sans doute, et trouver des excuses, et une fille qui veut admettre aucune excuse, et qui lui renvoie aussi dans la gueule les choses plus frontalement. Donc il y a quand même quelque chose qui les saisit entre les deux, mais c'est effectivement, il y a aussi cette relation juste familiale d'une mère et d'une fille qui ne peuvent pas se supporter à des moments et en même temps qui ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre, qui ont traversé aussi beaucoup de choses et qui sont liées par tout ce qui n'est pas dit entre elles. Et c'est ça, je pense qu'elles acceptent à la fin. En tout cas, on a essayé de tendre vers ça. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a effectivement une acceptation de l'autre, que malgré tout ce qui a été vécu, malgré tout ce qu'a vécu la mère, malgré toutes les violences qu'elle a pu subir, la fille, parce qu'on entend quand même qu'elle a subi des violences, puis on voit quand même la mère la maltraiter, elle lui tire les cheveux, elle l'étrangle. Voilà, il y a quand même quelque chose. En tout cas, il y a la seule porte possible, c'est en tout cas un apaisement, et la fille finit par faut que je respire, et la mère, on s'en accepte, en fait, que la fille puisse respirer et partir, et en tout cas, il y a quelque chose qui s'accepte entre elles à la fin, oui.
En tout cas, on n'est pas dans quelque chose de didactique. On n'est pas dans un discours frontal. Beaucoup de spectacles et d'approches d'écriture, etc., sur la décolonisation en théâtre, en danse, etc., sont assez didactiques. Il y a un discours. Il faut voir le monde comme ça. Et bien sûr que les gens ont raison. Mais c'est pas le cas ici. C'est plutôt la mère qui se dévoile. Elle est vraiment un personnage central et elle nous fait rentrer dans son univers, hein, quelque chose. Et c'est sacrément intéressant, quoi.
Parce que ce qu'on a recherché sur les personnages, c'est ce qui était le plus proche de. C'est-à-dire, il y a la question de l'amour, il y a toute cette ambivalence qui peut nous mener justement aux solutions faciles, au nationalisme. Donc, par rapport à ça, on est une question importante. Le personnage principal s'appelle France, mais la France, c'est autant la démocratie, une grande image de la démocratie, c'est aussi la résistance, voilà. Mais c'est aussi la colonisation. Donc là, c'est vraiment surtout ce qui est masqué. C'est-à-dire qu'il y a même une forme d'humanité qu'on peut voir aussi dans la Grèce antique. On parle des premières démocraties de la Grèce antique, mais elles n'étaient réservées qu'à certaines personnes. Là, on s'aperçoit qu'au peuple anciennement colonisé, qu'il soit africain, antillais, Algérie, voilà, c'est des gens qui sont un peu à part et pour lesquels il y a une humanité. C'est-à-dire, je pense que cette mère, elle a une humanité, mais dans la propagande politique et économique, vers ces peuples-là, on se comporte différemment. On va faire du profit là-bas. La police, c'est pareil. Il y a des polices secrètes, donc l'armée peut agir différemment. Il y a toujours une exception envers les populations anciennement colonisées. Et cette exception, elle est cachée au personnage par la propagande politique. Et le but du spectacle, au départ, c'est interroger quels sont les mécanismes de représentation qui nous mènent au fascisme. Parce que on est encore aux portes de ces questions-là, parce que ça prend des formes ordinaires, ça prend des formes simples. Et il y a de l'amour aussi.
Et de l'ironie. Il y a de l'ironie parce que, ils ont colonisé ce pays-là et l'autre et un autre et un autre. Après, revenu en France et de là, la mère, elle vit dans sa banlieue et elle se plaint qu'on lui a piqué une partie de son jardin. Ils ont piqué des pays entiers, mais là, un petit bout de jardin, alors là, ça va pas du tout. Voilà. Et puis, c'est comme une guerre. Dans une guerre, personne ne sort gagnant. Et c'est intéressant aussi parce que ça nous fait voir que finalement, les colonisateurs, eux aussi, souffrent. En quelque sorte, ils sortent pas vraiment gagnants de l'affaire.
La société ne se remet pas de l'Holocauste, par exemple. La question est toujours reposée en France. La question de la guerre aussi n'est pas réglée. La tragédie grecque en parlait avec Oedipe. Il y a des choses qui se reproduisent. Et c'est vraiment la question du mensonge qui est des fois faite, pas par amour, mais par protection. Mais quand on cache des choses, c'est des bombes à retardement. Par rapport à ce que tu disais de l'humour, c'est important de le préciser parce que on l'a abordé aussi. C'est-à-dire les interprètes ne sont pas que les personnages. On essaie de faire un travail aussi. Les interprètes manipulent l'objet de représentation et donc il y a quelque chose qui est clownesque, pas dans la forme, mais dans le fonctionnement. C'est-à-dire qu'on essaie de pousser au paroxysme des choses simples. Même vouloir préserver quelqu'un, vouloir préserver sa fille, on l'étouffe. Ça a été une des attitudes envers les colonies. On a voulu protéger, éduquer. Voilà. Donc, en poussant des élans comme ça, les deux actrices, elles nous montrent le fonctionnement aussi de la représentation. Parce qu'au théâtre, on est face à ces risques de représentation. On peut aussi profaner les choses, on peut porter des messages, vous voyez. On a cet objet de propagande et notamment on a travaillé principalement sur cet objet du langage.
Il y a quelque chose de clownesque, mais surtout au début. Et puis il y a quelques moments après aussi, quelque chose de, oui, de clownesque, mais de façon beckettienne. Oui. Et quand même, vous pourriez être, surtout au début, là, ça commence lentement avec quelques mots, etc. Vous pourriez être très bien dans une pièce beckettienne.
Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, mais on a travaillé aussi dans ce sens, oui, en effet. C'est-à-dire que c'est le clown, mais c'est aussi le clown métaphysique, quoi. C'est-à-dire que, bon, ben, au bout d'un moment, il est perdu dans l'espace avec son rire, quoi. Et c'est un peu... Ouais, c'est le clown un peu tragique aussi. Hein.
Bon, c'est deux en scène, mère, fille, mais il y a toujours plus de gens qui travaillent sur un spectacle. Maxime Lévesque, tu es là aussi avec nous, tu nous as rejoint, donc merci d'être venu. Toi, quel a été ton rôle dans ce spectacle?
Moi, mon rôle, ça a été de faire un écho, disons, dans cette équipe et dans le travail de langage accompagné. On travaille beaucoup en dialogue et donc c'est un peu de faire un miroir de ce qui se passe à des moments donnés, d'essayer de pointer des choses, de dire ce qu'il faut pas dire, d'être désagréable au bon moment. Parce que c'est, mais je pense que c'est quelque chose qui se ressent dans la pièce aussi, c'est que c'est une façon de confronter toujours des points de vue pour arriver à quelque chose de qui révèle un peu le trouble dans lequel on est aujourd'hui face à ces questions. Et donc voilà, mon travail, c'était de mettre du trouble là où il n'y en avait pas assez.
Oui, par exemple, tout ce fatras d'objets, là, tout ce qui doit sortir. Et oui, il y a aussi cette carcasse de mobilette qui garde un peu jaune, rouillée, ça ressemble à... Oui, ça me rappelle les lions empaillés, quoi, qui trouveraient dans leur chambre, dans leur séjour. Ah oui, elle parle de... Elle a ramené des défenses d'éléphants et le pied de rhinocéros et tout ça. C'est vraiment un univers colonial. Mais Gilles, tu as un rapport personnel, familial, à cette histoire, ou est-ce que tu as fait des recherches?
Alors, mes grands-parents, du côté de mon père, sont martiniquais. Mon arrière-grand-mère est venue de Martinique pour être femme de chambre. Donc elle est morte à 100 ans. Donc quand j'allais la voir, elle habitait l'escalier de service. Et à chaque étage de cet escalier de service, il y avait ses collègues, c'est-à-dire des femmes de chambre. Et donc petit, j'ai beaucoup parlé avec elle et tout ça. Donc le statut des Antillais à Paris, ça m'a marqué. Et mon arrière-grand-mère a eu une histoire autant douloureuse que forte. Une femme de caractère. Après, moi, d'un point de vue littérature, ce qui m'a amené à la littérature, c'est vraiment Aimé Césaire, Édouard Glissant. Enfin, c'est quelque chose qui a été déclencheur avec, bien sûr, d'autres auteurs. Mais du coup, j'ai aussi beaucoup de... Il y a un dialogue avec eux à travers cette pièce qui était un projet que j'avais depuis longtemps, mais que j'osais pas, enfin je l'avais en moi, mais voilà. Donc là j'ai pu l'écrire, je veux le dire aussi, parce que déjà Max.
Et voilà, c'est la fin de Tempête sur les planches d'aujourd'hui. Vous savez tout maintenant sur le manoir des colonies qui va être donc donné le vendredi 6 février au théâtre Victor Hugo de Bagneux dans le cadre du festival Auteur en Acte. Donc salutations à Marcos Malavia et Muriel Roland qui défendent ce festival depuis longtemps. Il va s'ouvrir jeudi 5 avec le collectif Mustang qui présente Paella. C'est un hommage à la force du groupe et à la nécessité de faire fête et à la possibilité de se découvrir artiste et citoyenne engagée. C'est une association libre de jeux masqués, de burlesques, d'écriture contemporaine. De musique aussi, là je vois une photo avec la guitare électrique, et de quoi s'agit-il? Bon, on est dans une petite ville qui s'appelle Gouzin, on est dans la salle des fêtes, c'est un local associatif historique qui est menacé de fermeture suite à l'annonce de coupes budgétaires. Tiens, tiens, on retombe dans le thème par lequel on avait commencé, là voilà. Et dans l'urgence, un groupe d'habitantes décide d'occuper le local et d'y organiser un grand cabaret de lutte dont elles seront pour la première fois les artistes. Voilà, ça c'est... Et c'est entrée libre pour Paella, donc le spectacle, le titre c'est Paella par le collectif Moustin au théâtre Victor Hugo de Bagneux. Jeudi 5 pour l'ouverture. Après, vendredi 6, le Manoir des Colonies, donc vous avez entendu l'équipe artistique. Et samedi 7 février, d'autres jours viendront par le théâtre El Duende. Et là, on est le 11 septembre 73, après le coup d'État qui renverse le gouvernement d'Allende au Chili. Et voilà, ensuite vient le régime de Pinochet, la dictature. Et là, vous avez les... musique originale de Anita Vallejo, une chilienne qui est exilée politique, musicienne et comédienne, cofondatrice du théâtre Aleph et du théâtre El Duende dans les régions parisiennes. Et voilà, c'est ses souvenirs authentiques, cette fois, c'est pas tellement la fiction. Ensuite, dimanche 8 février à 16h, Perdrix, par la compagnie Brise Fer, une odyssée entre ville et campagne, rêve et réalité, une compagnie qui monte son premier spectacle. Et puis, alors là, juste après dimanche 8 février à 19h30, cabaret de clôture, Antidote ou le remède à la grisaille. Voilà, avec une chanteuse, Carole Poulain, et un comédien. Ah, mais ce n'est autre que le célèbre Denis Lavant. Il va être là, à Bagneux. Voilà. Un grand coup, là. Denis Lavant, en vedette au festival Auteur en Acte à Bagneux, au piano Sanja Bishak. Voilà, ça c'est le programme. Et donc, ça se passe au théâtre Victor Hugo de Bagneux, au RERB, arrêt Arcueil Cachan. Voilà, ou bien métro ligne 4, arrêt Bagneux-Lucie Aubrac. Voilà, et vous pouvez trouver les informations sur le site du théâtre. Je vous donne le site du théâtre, c'est plus facile. Théâtre Victor Hugo, tout attaché, -Bagneux.fr, la ville de Bagneux. Donc, c'était La Tempête aujourd'hui de Bagnolet à Bagneux. Et ce spectacle a fait exactement ce chemin. Il a été créé, il est né à Bagnolet. Et il est maintenant à Bagneux. Voilà, c'était Tempête sur les planches, c'est Radio Liberté à 89.4 avec Thomas Rambourg.
h 33 sur Radio Libertaire, 89.4 FM, Michel Polizzi avec vous pour cette version étendue du mélange. Jusqu'à 18h30, 89.4 FM, je viens de le dire, je le répète. On va commencer le programme avec quelque chose que je voulais jouer la semaine dernière, puis j'ai pas eu le temps, avec seulement plus de 3 heures d'antenne. Mais c'est toujours pareil, il en faudrait 4. Avec Ryuichi Sakamoto, un extrait de premier album sorti avant Yellow Magic Orchestra, avant tout. Et ça, ça s'appelle A Thousand Knives. Mm-hmm.
I'm going to go to the hospital.